Nous voici arrivés à la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Et donc, ça se conclut par la fête du Christ roi. Alors, situons mieux la fête, parce qu'elle est récente en réalité, cette fête. Elle a été instaurée par Pie XI en 1925. C'est pas si vieux que ça fait 100 ans. Et à l'époque, le contenu de la fête, c'était souligner le règne social du Christ. C'était une époque où encore en Europe, l'Église réagissait et voulait s'imposer encore socialement dans la culture et dans l'éthique, ce qu'on appellerait l'éthique aujourd'hui. Après, Vatican II a complètement renversé les choses. Elle a donné à la célébration une dimension totalement eschatologique, celle de la fin des temps. On célèbre non plus la royauté du Christ en ce monde, d'une manière très concrète, sociale donc, mais sa royauté toute spirituelle, celle qui consiste à juger les vivants et les morts. Et je trouve que Vatican II a eu raison de transformer ainsi la fête de Pie XI. Son contenu s'entend, sa dimension. Ça embrasse aussi en même temps, évidemment, la présence sociale du Christ, mais elle se fait à travers les efforts de chacun, cette présence. Il n'y a pas une présence quasi sacramentelle, vous voyez, dans la société. Ça ne marche pas comme ça. Et ça pourrait fonctionner comme ça, dans un contexte totalement chrétien, comme au Moyen-Âge, mais ça ne peut pas, dans un monde divisé, s'imposer de la sorte. Donc le Christ roi que nous célébrons aujourd'hui, c'est celui qui récapitule toute chose. Et il est très important de souligner sa transcendance. Vous voyez, le monde, souvent quand on l'imagine, alors prenons un philosophe, Hegel. Hegel, c'est un bon résumé des choses. Il pensait que la divinité est immanente à notre monde. Vous voyez, elle est dans toute la matière, dans tout le cosmos et dans tous les êtres qui existent. Il l'appelait l'esprit absolu. Cet esprit absolu, donc, il rayonne, il ordonne la matière pour la faire se diriger vers une finalité, vers une conclusion que lui seul connaît, un couronnement en quelque sorte. Et il fait la même chose avec les êtres biologiques, les vivants, et avec les êtres doués de conscience. Il nous décrit, dans ses délires, pardonnez-moi de dire ça, dans ses délires intellectuels, il nous décrit les empires se succédant, mais dans une logique, celle de l'esprit prétendument divin, qui anime le monde. Vous voyez, ça c'est le faux messianisme. Ça c'est Dieu immanent, ça c'est Dieu finalement, qui règne socialement. Alors évidemment, Pie XI n'entendait pas des choses comme ça. Pie XI, lui, gardait et soulignait la transcendance divine. Mais voyez combien on risque de boiter un peu dans la foi et dans ses attentes concrètes quand on se tourne dans la mauvaise direction. Dieu est transcendant. Il a créé le monde et il en surveille l'évolution, mais il n'en contrôle pas le devenir. Il a laissé ça aux hommes. C'est à nous qu'il convient de maîtriser. Nous sommes les intendants de la création et nous sommes des petits rois qui obéissons au Christ, notre roi. Il y a dans l'Apocalypse, ça commence après le passage dédié aux sept églises, on a l'ouverture des sept sceaux. Ça commence comme ça. On est au ciel, il y a le trône divin, il y a les anges qui, par myriades, entourent ce trône, et il y a les quatre vivants qui sont les plus grands d'entre eux, et vous avez les 24 vieillards qui représentent la crème spirituelle de l'humanité, on va dire. Pour l'Ancien Testament, 12, pour le Nouveau, 12, des apôtres. Et puis une mer de cristal qui représente par sa lumière tous les sauvés, tous les élus. Grandiose. Et puis, Dieu, le Père, a dans sa main droite un livre très mystérieux qui n'est autre que celui du destin de toutes les créatures spirituelles. Mais pas un destin écrit, c'est plutôt une conclusion selon ce que leur liberté leur a fait faire. Et le livre de vie. Et celui-là, une voix dit à Saint Jean, et Saint Jean entend dans le ciel entier toutes les créatures se questionner les unes les autres. Mais qui est digne d'ouvrir ce livre? Qui est le livre de l'histoire, le livre de la royauté sur l'univers. Et seul l'agneau immolé est trouvé digne, bien sûr, d'ouvrir les sceaux de ce livre. D'abord de le recevoir de la main du Père. Et voyez ce passage, il n'est pas totalement hors du temps, bien sûr, il est au ciel, il est dans la gloire. Mais si vous pensez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est demeuré 40 jours sur la terre, qu'il y a eu ensuite l'épisode de l'ascension, et vous voyez dans cet épisode de l'ouverture du livre aux sept sceaux, comme le prolongement de l'ascension, la conclusion de l'ascension. On voit Jésus qui disparaît aux yeux des apôtres et qui s'élève au milieu des cœurs angéliques jusqu'auprès du Père. Et si vous relisez ce passage, vous vous rendrez compte que ça colle très bien avec l'accueil du Christ dans la gloire par toutes les créatures célestes, y compris bien sûr par le Père et par l'Esprit-Saint qui sont là. Et lui remettre le livre de la destinée du monde, c'est lui remettre la royauté. Donc on a ce passage est très important. Il est le roi de l'univers. Alors il est le créateur de l'Église, on le sait bien, le Christ. Mais comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean, il a d'autres brebis aussi en dehors de l'Église. C'est très mystérieux pour nous, mais le royaume de Dieu, ce qui est présent tout autour de nous, au milieu de nous, ce royaume de Dieu est plus grand que l'Église. L'Église, c'est la partie, visible de l'iceberg, de la rédemption. Alors, elle est visible, il y a une alliance avec elle, et c'est sur cette Église que le Christ règne d'abord. Mais son règne est universel, qu'on le veuille ou non, qu'on le refuse ou qu'on l'accepte, c'est ainsi. Et cet agneau, comme égorgé, qui prend le livre de la main du Père, nous montre que cette royauté est toute d'amour. La liturgie met comme passage d'évangile, un passage qui est lié à la passion du Christ, pour souligner cette royauté d'amour précisément. Tous les ans, sur un cycle de 3 ans, on choisit un passage différent, et aujourd'hui, c'est vraiment la miséricorde qui est mise sous nos yeux. Ce roi de gloire que nous célébrons, c'est l'agneau immolé. Mais l'agneau immolé n'est pas faible. Qu'est-ce qui fait que la royauté du Christ soit ainsi universelle? Sa divinité, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu vague pour nous, divinité, parce que nous sommes dans le temps et c'est la transcendance même, la divinité. C'est la vie. Et la vie, c'est les deux faces de Dieu, amour et vérité. C'est en cela qu'il est le souverain, parce qu'il est la vérité elle-même et qu'il est l'amour en lui-même. Et c'est en recevant l'une et l'autre de ces dimensions transcendantes qui viennent de Dieu, que l'agneau vient nous donner, que nous pouvons vivre, accéder à la vie. Cette vie, nous la désirons. Et c'est pourquoi nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Alors oui, le Seigneur a pouvoir sur toutes les nations et à toutes les époques. Et souvent, nous nous étonnons de sa passivité apparente, il n'intervient pas. Jésus, Dieu, la Trinité d'ailleurs, a créé le monde, mais n'entend pas gérer le monde. Sauf ce qui a besoin de l'être, la matière, Mais la matière a reçu des lois auxquelles elle obéit et qu'elle ne peut pas nier ou contourner. Tandis que l'humanité est libre et il nous revient eh bien, de choisir ou de refuser la royauté du Christ. On voit là, à l'époque même où Jésus est mort sur la croix, tous ceux qui la refusaient, qui s'en moquaient. Le seul qui l'est accueilli au Golgotha, eh bien, c'est cet homme, ce malfaiteur, ce criminel, qui se repent et qui a gardé dans son cœur l'idéal de la pureté, de l'honnêteté, de la vérité et de l'amour en un mot. Il n'a pas suivi cet idéal, mais il l'a conservé comme la seule valeur qui soit, la valeur qui dépasse toutes les autres. Voilà ce qui nous permet d'être sauvés. C'est pas grand-chose. Mais quand on voit le monde, on s'aperçoit que même cette valeur-là, eh bien, est menacée, comme pour les autres opposants du Christ. Le mal finit par nous aveugler au point que on assiste à une sorte de néantisation spirituelle des créatures, des hommes et des femmes de notre temps et de tous les temps d'ailleurs. C'est comme s'ils devenaient incapables de voir, de goûter, de sentir ce qui relève de la vérité ou de l'amour. Un oubli total. Et ils vivent dans l'oubli de la passion du Christ, dans l'oubli de sa miséricorde, et dans l'oubli, bien sûr, de sa résurrection et de sa gloire. Nous voulons faire mémoire de la royauté du Christ, et avec confiance, eh bien, nous célébrons la suite de cette Eucharistie.